France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Vincent Segal et je suis né à Reims en Champagne le 27 avril 67 et je suis violoncelliste.
Vincent Segal, on a eu cette première enfance, hein, donc rémoise, et puis à 16 ans, vous partez pour le conservatoire de Lyon, le CNSM à Lyon. Vous allez rencontrer un autre professeur et quitter Pierre Pénassou pour être dans la classe de Jean Deplace. À ce moment-là, à Lyon, du coup, à 16 ans, ça y est, vous habitez tout seul, vous laissez votre petit frère et votre petite sœur à la maison, c'est quand même pas rien aussi, ça,
oui.
C'est un vrai passage dans la
Surtout
vie, j'imagine.
Oui, c'est vrai, à l'époque, il y a... Pas d'internet, pas de téléphone, pas de répondeur. Le début du TGV, ça a changé quelque chose. Et donc, se retrouver livré à soi-même à 16 ans, c'était une expérience.
Et puis, quitter son cher professeur.
Je voyais souvent. Je voyais très souvent. Je voyais toutes les semaines. Et puis, au début, j'étais pris chez Rennes Flachot la première année. Et c'est drôle parce que ça, c'est intéressant. Si c'est un grand défaut de ma part. Et c'est ça aussi, j'en parle aussi aux élèves, à mes élèves. J'en dis oui, quand vous aimez pas un professeur, essayez de trouver les bonnes raisons de pas l'aimer, mais que ça soit bien pour vous, de se dire oui, pourquoi, qu'est-ce que c'est le conflit en fait, plutôt que de se jeter dessus. Et moi en fait, comme un bon adolescent de 16 ans, je sais pas, c'était ma police secrète, enfin c'était la Stasi quoi. Et maintenant quand j'y pense, Rennes Flachot, je lui dois énormément en fait. Mais à l'époque, j'étais pas prêt à recevoir ça, c'est-à-dire ce côté... pointilleux, sur les doigtés. Elle m'appelait mon petit lapin, je détestais ça. Elle a commencé à dire mon petit lapin, tu comprends. Elle fumait pareil pas mal de clopes aussi. Et mais en même temps, maintenant, je la vois quoi? Je la vois comme une grande violoncelliste, un milieu hyper hostile à l'époque. Elle nous racontait ça, mais on s'en rendait pas compte que c'était qu'une femme violoncelliste juste d'après-guerre, quoi, après la Seconde Guerre mondiale. C'était pas. Ils étaient rudes. Donc elle était rude, elle était très dure. Jean Gaine l'adorait, je me souviens. Et au bout d'un moment, Deplace m'a dit « Non, je voudrais que tu viennes chez moi. » Et en fait, j'ai trouvé quelqu'un qui était presque comme moi. Donc ça avait moins d'intérêt que Rennes, finalement. Rennes Flachot, ça aurait été mieux si j'avais vraiment, comme Jean Gaine, cherché qu'est-ce que c'est sa recherche, pourquoi elle fait ça, pourquoi les Japonais l'adorent. Je me souviens qu'au Japon, c'était la star du Japon. Mais j'ai compris après pourquoi elle avait une espèce d'aisance, de rapidité. Elle était un peu maniaque quand même. J'aimais pas trop son appartement à Saint-Mandé, je me souviens. De goût, quoi. Alors que Deplace, on l'adorait, mais c'était une crème, quoi.
Il était élève de Maurice Maréchal, comme
Pénassou. Oui, Maréchal, j'adore. J'ai les 78 tours, moi, je les écoute en 78 tours, c'est hallucinant. J'ai des disques de 28, 29, 30, où en fait, qu'est-ce qui se passait? On disait à la personne, allez-y, 3 minutes. On faisait 2 gravures, 3 maximum. Et après, de mémoire, il devait dire « Oui, je pense que celle-là... » Mais sans l'écouter, quoi. Et il devait se dire « Ouais, celle-là, je pense que c'était la bonne ou celle-là. » Et c'est ce qui sortait. C'est intéressant cette période parce que Monsieur Pénassou, en fait, il se rend compte à quel point il a vu la période de la guerre comme un post-adolescent, sans se rendre compte des vraies difficultés des gens. Il m'en parlait, hein. Il me disait, j'ai vécu ça, bon, pas facile, parce que ses parents étaient de milieu modeste, mais facile par rapport à d'autres. Et il était très lucide par rapport à ça. Il comprend comment il se moquait de Maréchal, qui s'appelait Maréchal pendant la guerre, donc il faut imaginer. Il rentrait, c'était la Maréchal, comme si c'était Pétain, quoi. Et il détestait ça, Maréchal, parce que lui était pas du tout pétainiste, enfin vraiment plutôt communiste même. En fait, j'ai parlé à M. Pénassou parce que nous, on étudie beaucoup avec les livres de Gartenlaube, Odette Gartenlaube, qui, jeune fille, avait tous les prix, enfin, était rentrée en écriture, en analyse, en tout. La direction de l'époque lui a dit, madame, en tant que juive, enfin, mademoiselle, vous ne pouvez plus faire partie de l'établissement, ils l'ont virée. Elle a survécu à la guerre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Elle a voulu présenter le prix de Rome de composition. Et ils lui ont dit, madame, vous avez un nom trop allemand, il faut que vous preniez un pseudonyme pour rentrer à Rome, si vous voulez rentrer à Rome, parce que Gartenlaube, ils vous prendront pas. Et elle a changé de nom, et elle est rentrée à Rome avec un autre nom. Je trouve ça horrible, cette histoire. Mais ça, c'était les conservatoires de l'époque de Monsieur Pénassou. Enfin, de Place, c'était un des derniers avec Alain Meunier, je crois que c'était les derniers élèves de Maréchal. Donc De Place avait une autre vision de cette époque, puisque c'était vraiment bien après. Et De Place, c'est le milieu ouvrier stéphanois. C'est des gens qui avaient beaucoup de mérite, comme Jean-François Esser. J'adore jouer à Saint-Étienne parce qu'on sent ça. On sent que c'est une ville où rien n'était donné, rien. C'est pas comme Bordeaux, Reims, Nice. C'est une ville où rien n'était acquis et c'est des gens un peu humbles. Jean De Place était très. Il parlait jamais de ce qu'il faisait, des concerts. Il était très discret. Très discret. Moi, j'ai des souvenirs de quand il jouait, mais c'était. Et finalement, il n'y a pas beaucoup d'enregistrements, c'est triste. Parce que justement, il la ramenait pas, donc il arrivait pas à trouver trop de maisons de disques, trop de choses comme ça, mais il jouait aussi bien que tous les grands violoncellistes de cette période-là.
Ce côté collectionneur, ça, c'est quelque chose que vous avez de votre père.
Hein. Oui.
Oui.
C'est pas collectionneur. À l'époque, je me souviens, le samedi, j'allais, si j'avais 50 francs, ben, j'allais chez un disquaire. Et je venais une fois, deux fois, trois fois, je disais je le prends pas. J'arrivais à la maison, je me disais, ah, oh, je me suis fait avoir. Puis deux semaines après, je commençais à l'aimer un peu. Et puis après, j'étais là. Et il y avait certaines versions, j'imagine que ça vous fait la même chose. Il y a certaines versions d'adolescence aussi, même si plus tard on se rend compte que c'était pas la meilleure version, on est quand même attaché par cette version parce que c'est la version qu'on a écoutée adolescent. Sur la musique classique, c'est énorme. Par exemple, personne ne peut. Bon, après, c'est une des meilleures versions, je pense. Je la défends quand même. Les musiques pour cordes, percussions et célesta, Fritschai, avec l'orchestre de la radio allemande, et c'est chez Deutsche Grammophon. Personne ne peut me faire écouter une autre version que cette version. C'est impossible. Et lui, par exemple, ça c'est vraiment typique des disques que mon père m'a offert quand j'avais 2 ans, 3 ans. J'avais un manche-disque, ils sont ruinés. Je peux pas écouter Bartok ou Stravinsky. Le Sacre, le Mandarin Merveilleux ou les quatuors de Bartok de cette époque quand j'étais petit, ou Louis Armstrong ou le Good Book, je crois, le truc des gospels, que j'adorais. Enfin, j'étais fou de ce disque. Why don't you rock my soul in a bosom of it? Why don't you rock my soul in a bosom of it? Why don't you rock my soul in the bosom of Abraham? Oh, rock my soul. I would not be a sinner. Oh, I'll tell you the reason why. So I'm afraid my Lord might call me
great God,
and I wouldn't be ready to die.
He really wants you rock my soul
in the bosom of Abraham.
Why don't you rock my soul
in the bosom of Abraham?
Why don't you rock my
soul in the bosom of Abraham? Oh, rock my soul.
Mon père avait une collection de jazz, mais il l'a toujours, hein, mais peu à peu, de temps en temps, il m'en donne un. C'est gentil. Et en fait, avec mon frère, quand il n'était pas là, on descendait, il avait sa pièce à musique, il avait tous ses disques, et on descendait, et là, je prenais des disques de mon, quelque chose comme ça, et on montait, et là, je les mettais sur mon électrophone, c'était pas une chaîne, c'était un électrophone, Et quand on entendait la clé du retour en bas et que j'avais pas les 110 et 10, c'était la catastrophe. Et on était là. Et des fois, par exemple, des versions originales Blue Note, on les laissait sur la moquette par terre. C'est nul. Enfin, moi, quand j'y pense maintenant, c'est un désastre. De temps en temps, j'entendais sa voix, Vincent! Puis là, on l'entendait monter, et on était là. Oh là! On a pris le disque qu'il fallait pas, là. Et de temps en temps, il faisait une descente en disant « Tiens, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est... » Il rapatriait ses disques, en fait. Mais quand je vois mes vinyles maintenant, en fait, je les vois un peu... Écoute-moi, parce que genre, quand on en a tellement, en fait, on les regarde et on a l'impression qu'ils sont là. Écoute-moi, prends le temps de m'écouter une fois. Il y a des disques que j'ai écoutés peut-être 3 fois, qui sont bons, hein, mais je sais pas pourquoi, je sais pas. Entre la radio... Les 78 tours, les 33 mono, les 33 stéréo, les cassettes, j'écoute tout, hein. Les DAT, les CD et le cloud. Là, bien.
France Musique, les grands entretiens de Vincent Segal.
Si on revient un instant au CNSM, quand même parler de cette expérience où vous passez quelques années, vous avez déjà vos chemins à côté, avec diverses façons de faire des expériences. Il y a quand même l'enseignement que vous recevez, Jean de Place, on en a parlé, c'est Gilbert Ami qui dirige le conservatoire à cette période-là.
Gilbert Ami, je l'adorais. La dernière fois, j'ai revu sur un quai en tournée et... Il disait souvent, ouais, Vincent, vous êtes trop dispersé, ce qui était vrai. Mais j'étais monstrueusement dispersé, c'était dingue. Dès qu'il y avait un truc à faire, on me proposait un truc, un échange avec un compositeur, je le faisais, quoi. Il disait que ça faisait trop. Ce que j'aimais bien, c'est qu'il était administrateur, mais il avait cette dimension artistique solide et élève de Messiaen. Pour moi, ça respirait l'intelligence. Il y avait 3 personnes que j'adorais, c'est assez curieux, mais. Et la deuxième personne, c'est François Sabatier, qui était prof d'analyse. Mais en fait, on parlait beaucoup d'histoire de l'art avec lui. C'était un monsieur qui enseignait des matières littéraires. Et Myriam Soumagnac, qui était de chez vous, de Radio France, qui était France Musique, qu'on appelait Nefertiti, parce qu'il paraît que c'était à la radio qu'on l'appelait comme ça, parce qu'elle avait une choucroute comme ma sorcière bien-aimée. Je me souviens parce qu'il y avait un batteur qui s'appelait Michel Mirou. Il jouait très bien la batterie jazz, c'était un bon batteur. Donc moi, quand j'étais jeune, j'ai souvent joué avec Mirou. Il me dit « Ouais, t'as Nefertiti !» Alors du coup, moi, j'ai dit au conservatoire, vous savez, elle s'appelle Nefertiti. Donc on l'appelait tous, et j'adorais Myriam. Elle m'a appris plein de choses. Elle m'a fait sentir la vibration parisienne des années 60, ce qui m'a donné envie de vivre à Paris, où je vis en plein centre, pas très loin de son idole qui était Dutilleux, qui était à l'île Saint-Louis, à 100 mètres. Elle a été secrétaire de Raymond Queneau. Et souvent, les élèves la prenaient par-dessus la jambe parce qu'ils étaient profs d'histoire de l'art. Bon, je dirais que 50% de ma façon de faire des projets, ça vient aussi beaucoup de Myriam. J'adorais cette femme. Je la trouvais subtile, fine, cultivée. Elle aidait des élèves qui avaient parce qu'il y avait beaucoup d'élèves, ils avaient arrêté l'école en 5e. C'était un désastre. Elle les aidait beaucoup. Enfin, ils se rendaient pas compte, mais... Parce que c'est vrai que pour nous, l'école, c'était anecdotique. On n'a pas fait d'études supérieures. Enfin, à part quelques-uns comme Claude Elfer, je crois, qui était polytechnicien ou un truc comme ça. Mais il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Franchement, c'est... Ensuite, il y avait Jean-Louis Florence et Yvette Grimaud. Je sais pas si vous avez connu. Alors, Yvette Grimaud, elle a créé les premières sonates de Boulez. C'est quand même génial. Ça a dû la traumatiser parce qu'après, elle s'intéressait aux musiques du monde et à la musique indienne en particulier, mais... Et l'ethnomusicologie. Alors, on préférait dire musicologie comparée avec Florence, et j'étais assez d'accord. Puisqu'en fait, ma vie, pour moi, c'est l'étude des musiques. J'ai pas ce truc de la musique. Je crois que la musique n'existe pas. Enfin, tout est traduction, en fait. En musique, c'est ça. On traduit tout avec son écoute personnelle. Et en fait, les cours d'Yvette Grimaud, c'était les cours, il fallait pas faire de bruit, il y avait un grand silence dans la classe. Et les classes de Jean-Louis et Florence, c'était des classes où ils mettaient la musique à fond. Il y avait son parfum, espèce de parfum de baroudeur. Ça sentait très fort le patchouli dans toute la... Et c'est quelqu'un que j'adorais, mais il devait pas beaucoup m'aimer. Parce qu'en fait, on a eu un conflit tous les deux. C'est que à l'époque, je commençais déjà vraiment à Lyon. J'étais tout le temps en banlieue, à Vénissieux, vraiment dans des coins pour jouer avec le début du rail. Il y avait Carte de séjour, il y avait Rachid qui était lyonnais. Il y avait des groupes antillais. J'allais jouer dans tous ces trucs. Et lui, en fait, ça l'énervait parce que lui, il voyait la musique africaine comme le musée de l'homme. C'est un truc qui bouge pas, qu'il allait étudier comme des animaux presque. C'était un truc, il s'en rendait pas compte, mais j'adorais sa musique, j'adorais tout de lui, sauf ça. Et on a eu beaucoup de conflits sur ça parce qu'il disait, ouais, quand vous jouez avec le violoncelle, vous jouez tempéré, donc forcément, vous allez détruire leur écosystème presque. Franchement, quand je parle avec les ethnomusicologues, maintenant, j'ai beaucoup moins de scrupules parce que je me rends compte que pour avoir joué 10 ans avec Balaké, j'en connais beaucoup plus sur l'histoire de la kora qu'eux qui ont peut-être étudié ici et qui ont fait des recherches. Mais quand ils font des recherches, en fait, les gens, ils posent des questions à des gens qui leur répondent en mentant parce que c'est un truc africain mandingue de ne pas contredire une personne. Donc, ils ne mentent pas, mais ils disent oui pour ne pas la froisser. Donc, souvent, les ethnomusicologues, je me suis rendu compte qu'ils posaient une question. Il disait, c'est comme ça que vous faites? Oui. Il notait, oui. Mais en fait, quand je lis toutes ces thèses, déjà, Balaké ne joue pas comme son père. Déjà, quand on dit tradition de père en fils, c'est exactement comme en violoncelle. Je suis incapable de jouer comme Pierre Pénassou, incapable de jouer comme Maréchal. Chaque transmission, c'est déjà dénaturé en soi. Et la kora, Balaké joue avec des cordes en nylon, son père joue avec des cordes en antilope. Il joue avec des ongles longs, son père jouait sans ongles parce qu'il fallait jouer sans ampli fort, donc avec la pulpe, comme les joueurs de flamenco. Les modes de jeu étaient différents, les chants étaient différents. Des fois, j'ai entendu par exemple, parce que j'adorais les chants de la terre sur France. C'est une mission quand j'étais enfant que j'écoutais énormément. J'adorais. Et en fait, on passe quelque chose de traditionnel, sauf que en creusant, je me rends compte que une phrase qui joue de musique traditionnelle vient de Djeli Madi Tunkara, qui est un guitariste électrique des années 70. Et tous les musiciens traditionnels rendent cette phrase que lui a inventée comme faisant partie du corpus de Sundiata Keita, par exemple. Donc en fait, c'est très compliqué. L'ethnomusicologie ou la musicologie comparée, c'est quelque chose de vraiment compliqué. Chaque musicien est différent. Et j'ai des collections mais énormes d'enregistrements des 78 tours, des années 20, 30. Et quand je suis allé au Gabon, j'ai cherché à voir qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui a disparu. Ça ajoute sur tellement de choses. Mais c'est ça que j'adore. Mais en même temps, c'est en lisant, en comparant. C'est sans fin, quoi. Sur le Brésil, c'est pareil. Enfin, c'est tellement complexe. Entre deux musiciens d'une rue, par exemple, des orchestres de samba, chacun va vous dire une chose. Et le collectage est complexe. Mais en tout cas, ces cours-là étaient super.
Très important, une sorte de déclic lors d'un petit voyage d'études.
Nous partons à Liège pour un échange entre le CNSM et le Conservatoire de Liège, puisqu'il y avait Bruxelles, donc ils se sont dit Lyon, c'est la deuxième ville. Et c'était Henri Pousseur qui était directeur du conservatoire de Liège. Et je rentre, et la première chose que j'entends, c'est un trio tuba, sax, batterie dans les caves. Pareil, un peu les caves. Et j'étais là, mais c'est incroyable, il joue du Dolphy. Et après, j'entends un truc plus expérimental. Je me dis, ouais, c'est quoi ce truc? Il me dit, ouais, ça, c'est un big band. Et là, je me dis, waouh, ils avaient des classes de jazz, d'improvisation. Fabrizio Cassol, c'est quand même quelqu'un qui a travaillé avec tout le monde. Mmh. Et en fait, quand je l'ai connu, il était étudiant là-bas. C'est lui qui m'a fait connaître Steve Coleman, par exemple. Il avait déjà rencontré Steve Coleman, ce qui est hallucinant, parce que c'était vraiment 81. En France, personne ne connaissait ce style de musique. C'est lui qui m'a fait connaître Bill Frisell, avec qui j'ai eu la chance de jouer après, mais je ne connaissais pas du tout Frisell. En tout cas, ils m'ont adopté comme un ami tout de suite. Ce qui m'a plu là-bas à Liège, c'est que ce soit Marianne Pousseur, ce soit Henri Pousseur, ce soit... j'ai été accueilli à bras ouverts. Contrairement à pas mal de mes copains qui étaient un peu... ils étaient là, ouais, ok, je joue bien classique, mais bon, il n'y a pas... de... moi, j'étais chez moi à Liège, vraiment. Et ça m'a servi pour toute ma vie. Je suis rentré, j'en ai parlé à Gilbert Ami, avec Jacques Di Donato, qui était professeur de clarinette, et qui était quelqu'un qui avait fait aussi bien de la musique contemporaine que du jazz expérimental, que karatéka, ami de Vanier. Jacques, j'adore, on le voit sur un défilé des Saint-Laurent. Et là, vous allez halluciner. Vous allez voir des musiciens de jazz free qui jouent une musique arrangée par Vanier extraordinaire, qui préfigure Melody Nelson. Et il y a Jacques Di Donato dedans. Enfin, et donc Jacques me soutient. Je vais voir Gilbert Ramé, je dis quand même, on est censé être au même niveau, et eux, ils ont une ouverture de classe, de choses phénoménales. Il n'y avait pas encore la classe de jazz au CNSM à Paris, c'était pas encore ouvert. Et Gilbert m'a dit, oui, oui, t'as raison, mais on n'est pas encore prêt pour ça au niveau infrastructure, au niveau argent, au niveau... Enfin, ça leur faisait peur, parce que c'est vrai qu'ils géraient des budgets complexes. Il y avait ce professeur qui s'appelle Rafi Ogandjian, qui est organiste et qui était élève aussi d'Olivier Messiaen. Et lui me dit, oui, on pourrait quand même faire une petite classe, je vous propose de faire une classe de rythme. Il pensait au rythme, à l'oralité. Et je dis, très bien, on va faire. Et donc, comme il était prof de composition, il y a ses élèves qui étaient tous à la classe. Et c'était drôle parce que c'était des jeunes amis qui écrivaient des musiques injouables, un peu à la Ferneo, mais des trucs injouables. Et quand on les avait à côté de nous avec une clave dans les mains, c'était un désastre rythmique. Et c'est ça, c'était drôle parce que ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que dans la musique contemporaine, j'ai vu beaucoup de compositeurs qui écrivaient des choses très difficiles et en fait, ils n'entendent absolument pas ce qu'ils écrivent. Mais il y a un problème. Et d'autres, au contraire, que j'adore, où là, tout est fait d'abord à l'oreille, d'abord dans le jeu, d'abord dans le... Et j'ai toujours eu du mal aussi avec cette période... je pense pas qu'il est responsable de ça, mais cette période vraiment post-Boulez où les compositeurs ne jouaient pas leur musique.
Avec le cœur sur chaque phalange, déjà commencé l'on verra. Comme les rois sans carrosse, animés par un désir féroce, au cas où faudrait avoir affaire. Comment acquérir sans penser guérilla? Il y a tant de rois sans carrosse. La souffrance dans la confidence, le sourire toujours sur l'écorce, il attend pas qu'on le considère. Cette année ils repasseront l'hiver, loin des belles qui n'ont même pas l'idée. Roi sans carrosse travaille, roi sans carrosse bataille, son espoir nous est presque offert. À la lumière des télévisions parisiennes, démoralise les maisons par dizaines. On ne peut reprocher à tout le monde le manque de compréhension profonde, avec les bras fermés et sans ailes, en attendant un nouveau leader. Déjà commencé l'on verra, en attendant un nouveau leader. Déjà commencé l'on verra, en attendant un nouveau leader.
C'est avec Roi sans carrosse d'Oxmo Puccino, accompagné par Vincent Segal, que se referme le troisième épisode des Grands Entretiens avec le violoncelliste français. Réalisation Christine Amado, prise de son Christophe Papon, mixage Benjamin Vignal, attaché de production Flora Sternadel. Suite de ce portrait demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.